France Inter.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon. C'est
la galette de sarrasin, galette de blé noir.
C'est qu'il faut pas confondre avec la crêpe.
C'est pas du tout la même chose.
La galette, c'est le blé noir.
Oui, et l'autre, c'est la farine de froment avec des œufs et du sucre et du lait. Je ne sais pas trop comment ça se fait.
Alors, Madame Carré, vous en faites souvent, vous?
Tous les vendredis.
Mais pourquoi le vendredi?
Ben parce que dans le temps, le vendredi, c'était jeûne. On mangeait de la galette, on mangeait pas de viande. Et on a toujours continué.
Quand? Le midi ou le soir?
Le midi.
Le midi.
Parce que le soir, c'est un peu lourd quand même pour l'estomac.
Alors vous, attendez, alors monsieur, comment vous faites? Vous mettez la galette dans le bol?
La galette entière.
La galette avec le lait ribot.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster vendredi ses galettes et dimanche aussi, à une semaine jour pour jour de la Chandeleur. Attention, on fait chauffer les poêles, les crêpières, les biligues, les galettières, appelez-les comme vous voulez. Et on se lance dans une crêpe partie avec notre invité du jour, Guilhem Tanguy, bonjour.
Bonjour François-Régis.
C'est bien Guilherme. Et vous tenez à cette prononciation?
J'y tiens. Ouais.
Prénom breton, hein?
Ouais, c'est Guillaume en breton.
Et patronyme breton?
Tanguy aussi, c'est breton. Mais...
Vous êtes d'origine bretonne, c'est quand même bien le minimum hein, pour être dans cette émission Galette. Et vous tenez, mais à Paris, dans la capitale, l'une des crêperies les plus enflammées et les plus sérieuses. Ça s'appelle Tanguy Crêpe, 15 rue de l'Échiquier, Paris 10e. Vous pratiquez une vraie galette de compète, une galette extraordinaire que j'ai dégustée il y a quelques jours, à prix tout à fait raisonnable, dans les règles de l'art, avec des produits sélectionnés. Bref, vous cochez toutes les bonnes cases, le choix des ingrédients, la préparation de la pâte, la cuisson, les tours de main, les garnitures. On reprend tous les fondamentaux de la galette de sarrasin et de la crêpe de froment avec vous, Guilherme. Vous allez tout nous expliquer et vous avez même apporté votre propre...
Bilic.
Il est en train de chauffer?
Il chauffe.
C'est quoi la température d'une bonne galette?
240.
240 pour la cuisson?
Ouais.
On va voir ça tout à l'heure, on va se régaler. Et celles qui vont se régaler avec moi en ce dimanche jusqu'à midi, c'est Elvira Masson, Zazie Tavitian, Céline Maguet. Bonjour à toutes les trois.
Bonjour à toutes et tous.
Elvira.
Il va être question d'une galette, mais qui sera ni de sarrasin, ni de froment.
Tiens, intéressant. Zazie.
Je vais vous parler aussi d'une galette dont j'aime autant le goût que le sobriquet, la robiquette.
La robiquette, oula. De quoi s'agit-il?
Mystère.
Céline.
Alors bien sûr, je vous ferai goûter l'accord roi avec la crêpe, j'ai nommé le cidre, mais attention, il y aura un piège.
Bah décidément, qu'est-ce qu'il y a comme piège là, entre galette, robiquette? Bon, bah écoutez, on va voir ça. Et vous, les crêpes et les galettes, ça se passe comment à la maison? Réagissez sur franceinter.fr et sur notre mail, on va déguster à radiofrance.com et retrouver nos recettes immanquables de crêpes et de galettes, notamment de Guilherme Tanguy. Toutes nos infos ainsi que les podcasts de nos émissions et de nos chroniques sur franceinter.fr. À la page, on va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Juste avant de se lancer dans notre leçon de crêpes et de galettes, on passe directement au fromage, les amis, avec cette petite surprise lactée que je vous ai apportée. Est-ce que vous auriez identifié un fromage de nos provinces?
Est-ce qu'il y a un piège?
Pas spécialement.
On dirait un peu un fromage de chèvre et en même temps, ça a un goût de Saint-Marcellin.
Ah, et ben voilà.
Moi, j'aurais dit Saint-Marcellin aussi.
Saint-Marcellin.
Qui vote Saint-Marcellin?
Enfin, on lève la main, mais oui.
On est quatre à lever la main.
Quatre mains se lèvent autour du plateau dont on va déguster. Et ben, vous avez raison.
Ah.
Un Saint-Marcellin, ce fromage de vache à pâte molle, à croûte fleurie, originaire du Dauphiné, fabriqué à cheval entre trois départements, l'Isère, la Drôme, la Savoie, reconnu par une IGP, indication géographique protégée, et c'est, comme vous le savez sans doute, le fromage officiel des Lyonnais, comme on l'a vu d'ailleurs avec le chef Olivier Canal dans notre émission du 12 janvier consacrée au bouchon lyonnais. Et les Lyonnais aiment particulièrement ce Marcellin, avec cette texture, cet affinage, cette croûte fleurie qui se fait un peu la malle, si vous voyez ce que je veux dire. Et si on déguste aujourd'hui ce Saint-Marcellin, c'est parce qu'on rend hommage à René Richard. La star de la crèmerie lyonnaise, figure des Halles, Paul Bocuse, nous a quittés dimanche dernier à l'âge de 74 ans. Je l'aimais beaucoup à titre personnel et ça me rend très triste. Souvenez-vous, Elvira,
oui,
René Richard.
Elle était venue lors d'une émission que nous avions faite à Lyon, justement, au Halles Paul Bocuse.
Bien joué, c'était le 11 décembre 2011, à l'occasion effectivement de cette émission, on va déguster spécial Lyon.
La vraie mère Richard, comme j'ai l'habitude de le dire, avec un V majuscule, c'est ma mère. C'est elle qui a créé la maison, qui a fait que son nom a été accolé des années plus tard à celui du Saint-Marcellin. Et moi, je suis la deuxième génération de Mère Richard. C'est un fromage qui nous vient de l'Isère, qu'on s'est approprié à Lyon, mais on est les seuls, si vous voulez, à les servir comme ça, crémeux, coulants, bien à cœur, comme on dit, c'est l'expression. Si vous allez dans la région de Grenoble, les Saint-Marcellin, vous ne les trouverez pas comme ça. Vous trouverez des petits fromages épais, un peu secs, croûtés. Notre métier, c'est de sélectionner les producteurs, de recevoir leurs produits et d'amener le fromage à maturité. Et alors, je vais vous faire une confidence. Je ne dis jamais le nombre de Saint-Marcellin que nous vendons par an, parce que ma mère, à son époque, disait déjà, si tu leur donnes le nombre de Saint-Marcellin, ils diront, forcément, il y en a dans l'eau qui ne sont pas affinés comme il faut. Hein.
Et voilà, l'affinage du Saint-Marcellin à cœur, hein, comme on dit à Lyon. C'est comme ça qu'on le mange à Lyon, et ça, c'est une belle invention de René Richard. Alors, René Richard portait le même nom, le même prénom que sa mère, qui était officiellement la mère Richard, d'où le Saint-Marcellin de la mère Richard. Voilà, c'était en 2011 dans notre émission. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, a réagi ainsi à cette triste disparition. Lyon et sa gastronomie perdent aujourd'hui une ambassadrice incontournable. Derrière ce nom célèbre et ses fromages d'exception, une travailleuse infatigable, appréciée de tous, son sourire, son affabilité et son charme resteront à jamais dans nos mémoires. René Richard n'a pas d'enfant et la suite de la maison Richard devrait quand même être assurée par Guillaume Fortin, le gérant des boutiques. Adieu René Richard. Derrière la console, Laurent Thomas avec Corentin Rouchy, Fabrice Rivaud pour la préparation et l'organisation de l'émission. Des crêpes, des crêpes, des crêpes tout le temps, nuit et jour. Après, tiens, tiens, Night and Day, ça va plaire à Elvira Masson. C'est le nouveau titre de...
C'est Franz Ferdinand, ça.
Bravo, Franz Ferdinand, choisi par Djoubaka. Bonne Chandeleur, avec quelques jours d'avance, sur France Inter.
Alors, vous avez commandé ?
Alors, moi, je vais prendre une complète, s'il vous plaît. Et pour toi ? En douille de Yéméné ?
Est-ce que vous nous conseillez un cidre ?
On peut partir directement sur un d'extra brut de chez Quatalbret.
Ah, ça, je connais.
C'est à côté de Rennes.
Très bon choix.
Eh ben, c'est parti. Go. To every day, oh my. Some days are just here to try. Sometimes it's every day, oh my. Sometimes it's every night. If I can be irascible or proud, then we can be predictable. We turn to face each other. We turn to test each other, but we lean against each other. Life's never gonna be easy, but if you're living it with me, we're gonna live it up night or day. Well, I wanna live a life with you, no life is you, and I want it night or day. I look forward to night or day, oh. I'll never get bored of you. All the thing that you do. Cause everything, everything, yeah, everything that you do. Keep me addicted to you.
Je m'appelle Mao Collin, je suis journaliste et j'habite à Saint-Malo. Je ne suis pas bretonne, la Bretagne m'a adoptée.
Et tu m'accompagnes pour manger des crêpes. Alors Mao, cette complète?
Elle est délicieuse, bien croustillante sur les bords, comme on aime. Bien fondante à l'intérieur, il y a l'acidité du sarrasin. Je me régale. L'épaisseur du fromage, j'adore ça. Très généreux. Et en plus, 9,80 la galette. Qui dit mieux à Paris, dans le 10e arrondissement? Franchement, chapeau.
Un petit tour cette semaine chez Tanguy, en compagnie de la journaliste gastronomique Mao Collin. C'est la crêperie que vous avez ouverte, Guilherme Tanguy, en 2019?
2019, oui.
Vous nous en rappelez l'adresse?
15 rue de l'Échiquier, métro Strasbourg-Saint-Denis, bonne nouvelle.
Et on entendait Jérémy Baron, qui est à vos côtés depuis le début de l'aventure. Alors lui est en salle et vous, obligé.
Voilà.
Et votre crêperie connaît un franc succès, c'est le moins qu'on puisse dire, notamment grâce à ses prix très tenus. Et ça, c'est un de vos combats.
Oui, parce qu'effectivement, on est sur un plat populaire. On l'a entendu en intro, c'est le plat du vendredi, le plat maigre. Il faut essayer de maintenir, au moins sur certaines recettes simples. Je pense par exemple à la simple au beurre, qui est typiquement celle du vendredi soir.
Et qui est quand même vendue chez vous, 3 euros.
On est à 3 euros, ouais.
La plupart de vos crêpes sont à moins de 10 euros, ce qui est une véritable performance au cœur de Paris. Et connaissant surtout la qualité des matières premières absolument exemplaires que vous utilisez, vous l'avez dit, la galette reste un produit populaire. Et votre crêperie, c'est, j'ai envie de dire, le fruit d'une reconversion. Parce qu'alors, attention, hein, le garçon, dans sa quarantaine, a d'abord fait des études d'histoire, des études de commerce, ancien directeur d'un McDonald's dans les années 90. Vous avez été cadre à la Défense, grosse société de conseil. Alors, la crêperie, elle est venue comment dans l'histoire?
Mine de rien, McDo, ça m'a quand même donné le goût de servir à manger à des gens, si on peut appeler. Ensuite, effectivement, moi je suis hyper lié à mon terroir. J'avais un oncle et une tante qui tenaient un moulin dans le Morbihan où ils faisaient du sarrasin.
Dont vous utilisez encore la farine?
J'utilise toujours la farine de ce moulin.
Alors c'est harpe noire?
C'est la harpe noire, oui. Mm-hmm. Et puis depuis que je suis gosse, je passe toutes mes vacances au pays.
Et oui, vous êtes suffisamment vieux, je mets 14 guillemets évidemment, pour avoir connu les galettes ou les crêpes, ça on va voir qu'il y a un petit débat, à la cheminée.
Régulièrement à la crêperie, je sors un vieil album photo où on me voit à table avec mon père et le voisin.
Ouais.
Alors on était sur un modèle de société un peu particulier, hein, parce que en revanche, Célestine, ma voisine, et ma mère, elles étaient assises sur des petits trépieds à hauteur de cheminée et faisaient les crêpes dans la cheminée.
Vous étiez à table.
Au bois. Et nous, on était à table et on buvait du cidre.
Et Elvira, non seulement il était à table, mais en plus, je crois que c'est à 7 ou 8 ans que vous battez un incroyable record.
Ouais, 16 crêpes sur un repas à 8 ans. Donc oui, voilà, j'avais pas trop le choix en fait. Hein. Il fallait absolument que j'ouvre une crêperie, hein, parce que sinon, ça allait être compliqué pour moi.
Vous vous êtes formé dans le quartier Montparnasse. Alors, on ne le sait pas forcément, mais le quartier Montparnasse, ça a été évidemment la terre d'accueil. Hein. Je parle des alentours de la gare Montparnasse, de tous ces Bretons qui ont afflué à la capitale. Et vous, il y a quelques années, vous êtes formé dans ces crêperies dont vous dites quand même aimablement, à Montparnasse, la Bretagne est accrochée au mur, mais pas forcément beaucoup dans l'assiette.
Je suis un Breton de Paris, hein. Il y a quelques Bretons qui diront que je ne suis pas légitime à dire que je suis Breton. Pourtant, j'ai tout fait, hein. J'ai le prénom, je fais des crêpes. Mais effectivement, au début du XXe siècle, les Bretons débarquaient à Montparnasse. Ça a été les premières crêperies, puisqu'en Bretagne, même si on parle d'une première crêperie à Rennes, mais en Bretagne, on n'avait pas besoin de crêperie, puisqu'en général, on avait toujours une tante ou une grand-mère qui faisait les crêpes. Il y a eu ce qu'on appelait les crêperies garage. Des femmes qui, c'était souvent des femmes qui tournaient des crêpes et on venait avec sa propre garniture. Donc on venait avec son beurre, son œuf, et c'était uniquement le savoir-faire et le matériel qu'elle mettait à disposition des gens. Mais les crêperies, elles n'avaient pas tant que ça en Bretagne à l'époque, quoi.
Vous avez été crêpier, manager dans des crêperies de Montparnasse. Alors, on n'a rien contre ces crêperies, évidemment, mais ça, c'est beaucoup devenu des usines à crêpes avec des farines aux origines plus ou moins identifiées. Bref, on ne va pas forcément s'attarder. La vôtre, en tout cas, on l'a dit, un sourcing absolument exemplaire. Venons-en à une autre question qu'on pourrait appeler la géopolitique de la galette ou de la crêpe, parce qu'il y a quand même des mini-tensions en Bretagne autour de ce totem comestible. En France, quand on dit crêpe, il n'y a pas de débat, c'est sucré, c'est avec de la farine de froment. Mais en Bretagne, c'est beaucoup plus compliqué. Quand on lâche le mot crêpe, ça n'a pas tout à fait la même signification selon là où on se situe. Est-ce qu'on peut tenter de définir le clivage ?
Oui, on peut tenter. On va plutôt parler de galette de sarrasin dans ce qu'on pourrait résumer au pays gallo, donc là où on n'est pas en Bretagne bretonnante.
Donc c'est plutôt l'est de la Bretagne.
C'est plutôt l'est de la Bretagne, selon les couperets, selon un axe Vannes-Saint-Brieuc.
Très bien, on y voit clair.
Voilà, donc une partie du Morbihan, l'Ille-et-Vilaine, le pays nantais. Mm-hmm. On va plutôt parler de galettes de sarrasin.
D'accord.
Et en pays bretonnant, où on parle breton, donc le Finistère notamment, on va plutôt parler de crêpes de blé noir.
Donc l'ouest de la Bretagne, c'est plutôt la crêpe de blé noir ou de sarrasin, sachant que vous préférez dire souvent en Bretagne blé noir à la place de sarrasin.
C'est la traduction littérale du breton, de la manière dont on le disait en breton. Je suis pas vraiment bretonnant, mais je crois que c'est quelque chose qui doit se dire télendu, qui veut dire le blé noir. Du, c'est noir, télen, c'est le blé. Et effectivement, après, c'est deux produits qui sont sensiblement différents. La crêpe de blé noir, côté Finistère, va être plutôt fine et croustillante,
ouais.
Alors que la galette de sarrasin va plutôt être épaisse et moelleuse. En breton, on va dire, pour la crêpe de blé noir, qu'elle écrase.
Et vous l'appelez K-R-A-Z. Ça veut dire qu'elle est effectivement un peu croquante,
ouais.
Un peu croustillante.
Voilà, un petit peu croustillante, un peu croquante.
Ça, c'est dans le Finistère, plutôt.
Plutôt dans le Finistère.
Vous êtes originaire du Morbihan, qui est une terre un peu neutre, c'est ça ou...
Je suis plutôt à l'ouest du Morbihan. Chez moi, j'ai toujours entendu parler de crêpes de blé noir.
Donc vous, chez Tanguy, votre crêperie parisienne, vous êtes plutôt de l'école crêpes de sarrasin.
Crêpes de sarrasin.
Même si, s'il vous plaît Guilherme, pour des raisons de pédagogie, on va plutôt dire, dans cette émission, j'espère que les Bretons vont nous pardonner, on va plutôt dire galette quand il s'agira de sarrasin et crêpes pour ce qui est de froment, comme vous le faites d'ailleurs sur votre carte que j'ai sous les yeux. Là, vous avez... Ah non, crêpe de blé noir, pardon.
Eh oui.
Ah non. Ah là, je me fais avoir. Je pensais que vous disiez galette, mais non, c'est crêpe de blé noir sur votre... D'accord.
Mais quand mes clients me demandent une galette, je comprends.
Ah, c'est une langue étrangère, vous comprenez quoi ?
Je comprends ce qu'ils veulent dire.
Bon, eh ben, je vous propose de plonger directement dans la pâte à crêpe, ou allez, la pâte à galette de sarrasin, puisque vous en faites une exceptionnelle que j'ai eu l'occasion de goûter. Là aussi, il y a plusieurs écoles, mais dans la vôtre, il y a très très peu d'ingrédients, c'est-à-dire trois.
C'est-à-dire trois, oui. De la farine, du sel et de l'eau.
Dans quelle proportion, lorsqu'on prépare, alors celle-ci est déjà prête, que vous allez nous faire cuire sur votre billing, mais dans quelle proportion, s'il fallait indiquer une recette à ceux qui nous écoutent ?
Dans un premier temps, quand on l'a fait, on va mettre autant de farine de blé noir que d'eau, en termes de poids. Ensuite, on va rajouter, si on part sur une quantité d'un kilo de farine, on va prendre une petite poignée de gros sel. Et là, on va avoir un mélange relativement épais. Et ça, il va falloir le mélanger. Alors nous, c'est ce qu'on fait aussi chez Tanguy. On dit qu'on la tape. Donc on la tape à la main, on mélange à la main. Donc pas de fouet.
C'est mieux qu'un fouet.
Le fouet, il tiendrait pas longtemps, parce qu'on est sur un mélange assez compact.
Ah oui, donc
et on va la taper pour intégrer de l'air à l'intérieur du pâton.
Et comment on fait pour éviter les grumeaux ?
Sur une pâte de blé noir, il n'y a pas de grumeaux. Et puis il faut taper quand même énergiquement. Hein.
D'accord.
On est sur une petite session de 5 à 10 minutes minimum. Quoi.
Est-ce que cette pâte de sarrasin demande un temps de repos ?
Le temps de repos, il va être variable en fonction de la farine que vous utilisez. Si vous avez une mouture relativement épaisse...
Ça, on le voit à l'œil.
Oui, ça va être à l'œil. Il va falloir la laisser reposer beaucoup plus longtemps.
Chez Tanguy, c'est combien de temps de repos ?
À peu près une nuit, quoi. Ensuite, on va encore rajouter la même quantité d'eau.
Donc, quand vous dites le même poids entre l'eau et la farine de sarrasin, ça c'est au début.
Ça, c'est pour le
début.
Et
ensuite, on délaye à nouveau.
Et ensuite, on délayera à nouveau.
D'accord.
Si vous n'avez pas de bilic et que vous le faites à la poêle, vous allez avoir besoin d'une pâte qui va être beaucoup plus liquide. Donc là, il faudra peut-être rajouter encore un petit peu plus d'eau.
Bon, vous passez au bilic ou pas ?
Allez.
Vous l'avez déjà fait chauffer ?
Il fume même.
Il est très chaud.
On a tous chaud, là.
Température du bilic, on l'a dit, 240.
240, ouais.
On entend un petit grésillement qui signifie, Guilherme,
que je graisse ma plaque.
Avec quoi ?
Huile de pépin de raisin ou éventuellement du saindoux. En Bretagne, on utilise même aussi un mélange saindoux et jaune d'œuf qui s'appelle le lardiguel en breton.
D'accord.
Et qui va éviter que la crêpe ne colle à la plaque.
On a déjà des auditeurs qui s'interrogent sur bilig féminin ou masculin. Parce que moi, je dis un bilig.
Moi, je dis une.
Ah ben oui, c'est ça. Je crois que vous avez raison, non ?
Je suis même pas sûr qu'il y ait un genre en breton.
Alors là, vous êtes en train d'étaler votre pâte à galette avec un petit râteau en bois qu'on appelle
le Rozel.
R-O-Z-E. Deux ailes, bah, c'est la raclette un peu indispensable.
Il y a différentes variétés, il y a droite, il y a ronde.
Qu'est-ce que vous faites là ?
Il y a en métal, bah, là je mets du beurre, c'est quand même essentiel.
À la surface ?
Dessus, à la surface, ouais.
Vous allez nous faire une complète ? Vous allez nous faire quoi comme recette ?
Je vais vous faire une crêpe de blé noir avec de la tome de vache, la tome Le Hirel, qui est faite dans le 22,
ouais.
Avec de l'andouille. Qui nous vient du Morbihan, forcément de l'andouille de Guémenée, de la maison Rivalan-Quidu.
Il paraît que c'est la meilleure andouille de Guémenée, est-ce que je me trompe ?
C'est la meilleure andouille de Guémenée du monde.
Rivalan-Quidu, on parle quand même d'une maison familiale qui se transmet le savoir-faire de cette andouille totalement naturelle de père en fils depuis 1931.
C'est l'andouille que je mangeais quand j'étais gosse, quoi.
Vous venez de mettre votre tome fermière râpée.
C'est la fromagerie d'Arlay.
Qui est à Ruca, dans les Côtes d'Armor, là aussi. Fromage bio, exceptionnel, avec du lait breton.
Ils font une tome, Céline. Une fenugrec, délicieuse.
Très bien, fromagerie. C'est une très belle fromagerie.
Et c'est pas qu'une fromagerie, parce que c'est aussi un élevage. Ils transforment le lait. Et...
Quel est à peu près le diamètre de votre galette ?
Je suis sur un bilic de 40, là. Ça monte jusqu'à 48.
Et là, vous avez découpé quelques tranches.
Quelques tranches.
Racontez-nous, il y en a combien ?
Là, j'en ai mis 7.
7 tranches quand même, il est généreux le garçon.
Ouais, j'ai vu en fromage aussi, c'est pas mal, bien recouvert.
Elle est légèrement fumée, hein.
Souvent les gens sont un peu rebutés par l'andouille. Quand elle est bonne, le fumé va prendre le dessus et c'est tout ce qui fait la différence. C'est d'ailleurs aussi ce qui fait que c'est un produit d'exception et qui coûte un peu cher parce que plus elle est fumée, plus on perd de la matière.
Qu'est-ce que vous avez ajouté au-dessus des tranches d'andouille ?
Des oignons confits.
Ah, la bonne idée.
Alors, c'est des oignons, évidemment, de Roscoff. On fait confire dans du chou chêne.
Un peu sucré et gourmand.
Je fais un pliage carré, assez classique.
Dès que vous avez rabattu les quatre oreilles.
Exactement.
Et elle reste à être dégustée, c'est ça ?
Oui, il va falloir se battre là. Parce que
est-ce qu'il y a des candidates ?
Moi, je veux bien me sacrifier. Alors personne d'autre n'en veut.
Moi, je vous propose un truc. On va faire tourner l'assiette. Chacun en prend une bouchée. Petit commentaire de dégustation.
Ça, on mange jamais en même temps quand on mange des galettes. C'est toujours le problème.
C'est vrai. Elle est belle, hein ? Effectivement, on va peut-être l'entendre au micro, mais on va voir qu'a priori, elle croustille, parce qu'elle est légèrement colorée. Ah oui, on remet un peu de beurre. Il vient d'où, votre beurre ?
Mon beurre, il vient de la laiterie Kerguillet à Plouet, dans le Morbihan. Beurre demi-sel, évidemment.
C'est une maison, là aussi, attention, hein, la laiterie de Kerguillet, maison fondée en 1920, collecteur de lait biologique, crémier, fromager et affineur. Il y a de sacrés savoir-faire en Bretagne. Elle écrase. Alors, Elvia, cette crêpe de blé noir ou galette de blé noir à l'andouille de Guéménée, oignon confit, au chou chêne et tome bio, Elvia. Oh,
mais c'est tellement bon. D'abord, il y a un contraste de texture qui est génial. C'est qu'elle est vraiment crasse, comme vous disiez, c'est croustillante. À la fois, elle est très richement garnie, ce qui donne du moelleux. Il y a les fils du fromage, le caractère un peu atomique comme ça de l'andouille de Guéménée qui est bien fumée. Et puis, cette saveur du blé noir, quand même très reconnaissable, quoi, presque un peu poivré, un peu torréfié. Enfin, tout a beaucoup de goût. C'est un bonheur, quoi.
Vas-y.
Les côtés sont vraiment croquants et on sent tous les goûts, quoi. C'est délicieux. Moi, de toute façon, c'est ma galette préférée, l'andouillette. Celle-là est très bonne.
Céline a la bouche pleine.
J'ai rien à ajouter, c'est vraiment très bon.
Vous m'avez dit en préparant cette émission, alors ça c'est absolument incroyable et drôle, il y a un nom spécial pour la première crêpe que l'on fait et qui est en général un peu ratée.
Oui, alors je ne suis pas sûr de pouvoir le prononcer correctement en breton, mais chez moi j'entendais ça, c'est la Kramposa Archi, c'est celle du chien. Ça peut être la première et la dernière. Apparemment, là, j'ai eu de la chance, je m'en suis bien sorti. La première, elle est ratée parce que la plaque n'est pas encore... Je dis plaque aussi parce qu'effectivement, dans la cheminée, quand j'étais petit, c'était réellement une plaque de fonte qui était posée sur un trépied et avec un feu à gérer en dessous, qui est un peu plus difficile, je pense, à maîtriser qu'un thermostat. Et la dernière aussi était ratée. Parce donc qu'évidemment, on n'a pas la bonne quantité de pâte et que du coup, ça fait... Oui.
Donc c'est la crêpe qui part en lambeaux, on va dire, et en général, elle est réservée aux chiens.
Elle est réservée aux chiens, oui.
Et donc, on apprend au passage que Krampouz, alors moi, je prenais ça pour une très belle marque Made in Bretagne et Made in France, hein, qui est en gros la marque qui fabrique notamment Sebilig.
C'est une très belle marque. Mais...
À l'origine, c'est crêpe.
À l'origine, c'est crêpe, ouais.
Ou galette.
Okay. Bah, non, crêpes.
Ou les deux. On s'en sortira jamais. Et il ne suffira pas d'une émission pour résoudre ce problème diplomatique entre Bretons, comme si on n'avait pas assez de problèmes dans le monde en ce moment. Mais bon.
France Inter. On va déguster.
Vous vouliez nous parler, ma chère Zazie Tavitian, d'une galette nommée...
Nommée la Robiquette, oui, François-Régis, c'est le sobriquet que l'on donne à la galette saucisse. Bon, un sobriquet qui n'est plus tellement utilisé en ce moment, mais une information très intéressante que j'ai découverte dans l'excellent ouvrage « Galette saucisse, je t'aime », dont je vous parlerai un peu plus tard. 160 pages sur la galette saucisse, et ouais. Toutes les pages sont intéressantes, il faut quand même le faire.
Sacrée performance.
Et pour le moment, je vous amène chez Galette Zen, c'est un nouveau lieu qui fait de la street food bretonne à Paris, où j'ai rencontré son fondateur Maogad Le Gall, un nom bien breton, pour un jeune qui lui a grandi en Seine-Saint-Denis à Aulnay-sous-Bois.
Ben voilà, un autre breton de Paris.
Voilà, un autre breton de Paris, qui a un nom lui aussi bien breton, et je lui ai demandé de nous raconter l'histoire de Galette Zen.
Galette Zen, c'est surtout une histoire familiale. En fait, nous, on est bretons de naissance. Mon grand-père est à la maison en Bretagne, en Ille-et-Vilaine. Et quand je suis rentré à Paris chez mes parents, parce que j'ai fait mes études à Rennes, on n'avait pas la vraie galette saucisse qu'on mangeait sur le marché. Et du coup, on a voulu créer un street food autour de ça.
Ici, les galettes, on les mange roulées.
C'est ça. En fait, il y a plusieurs recettes qui se déclinent. Donc, on a la galette saucisse principalement qui est toujours roulée. Et on a voulu jouer tout autour de ça pour toutes nos recettes, que ce soit du saumon, du bœuf ou du poulet, où on mange un peu comme un wrap ou comme un burritos, où la galette est roulée sur elle-même.
Tu peux me raconter un peu si tu as des souvenirs des galettes que tu mangeais quand tu étais petit chez tes grands-parents?
Oui, manger alors soit sur le marché le matin à 11h avant de rentrer, soit en rentrant du marché justement, mon grand-père il adorait l'été, mon grand-père cuisait les saucisses au feu de bois dans le barbecue dehors, et après la galette du marché qu'il prenait à l'unité, et on mangeait ça avec une petite boulette de cidre. Doux pour les enfants et brut pour les adultes.
Mais les deux sont alcoolisés quand même.
Les deux sont alcoolisés, ouais.
Est-ce que c'est un bon plat de lendemain de fête aussi, la galette saucisse?
Ouais, c'est un bon plat de lendemain de fête, ouais, bien sûr. Plusieurs fois, on s'est retrouvés, nous, avec des potes sur le marché le matin à 8h, où on mangeait la galette saucisse un peu éméchée, quoi.
Il me semble qu'autour de cette table, Céline, vous connaissez aussi la galette saucisse du marché d'Hélice à Rennes, notamment au petit matin. Vous l'avez testée.
Ah, ça sent le vécu alors, Céline,
non,
racontez-nous un peu.
Pas balancer, hein.
Mais... Ouais, c'est un très bon endroit où on croise aussi bien les noceurs qui viennent en fait après leur soirée et justement ceux qui viennent au marché dès la première heure faire leurs courses.
On ne saura pas, Céline, de quelle catégorie elle fait partie.
Non, je ne le dirai pas aujourd'hui.
Et lâchez votre bon plan que vous étiez en train de me livrer juste avant l'émission, chère Céline, puisque il y a un autre endroit pour des galettes bio, authentiques, avec une belle saucisse.
Alors, moi j'avoue que les galettes saucisses, je préfère les manger le mercredi après-midi, et pas aux aurores le samedi matin. Au marché bio du Mail François Mitterrand, en plein cœur de Rennes, il n'y a qu'un seul camion à galettes qui est là-bas, et qui fait des superbes galettes saucisses, et aussi des galettes végé, avec des végétariennes, avec des carottes lacto-fermentées, et c'est des vieux de la vieille qui font ça. Des galettes vraiment délicieuses.
Parce que des galettes saucisses, on en trouve partout. Enfin, c'est une vraie religion à Rennes et en Bretagne en général. Donc notamment au marché d'Hélice dont on parlait. Et cette passion bretonne pour la galette, c'est donc ce que raconte dans son ouvrage Galette saucisse, je t'aime, l'auteur Benjamin Keltz, où il essaye de remonter son origine. Alors comme souvent avec les recettes, ça peut donner lieu à diverses hypothèses et récits. Mais ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'à la base de la galette saucisse, il y a bien sûr la galette, tout simplement, avec le blé noir dont la culture est encouragée par Anne de Bretagne au XVe siècle. À cette époque, on mange des galettes nature pour les plus pauvres, donc avec rien dedans, avec un petit peu de beurre, voire un œuf pour les gens qui sont plus fortunés. Et l'apparition du porc dans la galette, elle se fait plus tard, au XIXe siècle, avec notamment deux plats. Le premier, c'est la casse, donc c'est un plat qui apparaît dans les fermes du pays rennais, un plat à base d'abats qui mijote au four dans une grande bassine en cuivre étamé, une bassine qui s'appelle la casse, comme le plat. Donc on le déguste le dimanche, étalé fumant sur une galette de blé noir froide. Et il y a aussi cet autre plat du nord de l'Ille-et-Vilaine qui s'appelle, lui, le porcher, à base d'abats de cochon. Et cette fois-ci, sous forme de terrine cuite au four, terrine que l'on déguste aussi dans une galette roulée, brûlante cette fois-ci. Et quant à la saucisse à proprement parler, on trouve sa mention dans une galette pour la première fois dans un texte à propos de l'échoppe rennaise d'un dénommé Pogan, donc qui vendait ses galettes saucisses dans la première moitié du 19e siècle. Toujours est-il, voilà, qu'aujourd'hui, en Bretagne, on trouve des galettes saucisses partout, sur les marchés, dans les fêtes et évidemment aussi au stade.
Galette saucisse, je t'aime, j'en mangerai des kilos dans toute l'île Vilaine avec du lait ribot. Et si tu m'abandonnes, alors je m'empoisonne avec les tripes de Caen et les rillettes du Mans. Galette saucisse, je t'aime.
C'est évidemment l'hymne du Stade Rennais.
Oui, merci pour cette très belle chanson.
C'était une petite surprise pour vous, Zazie, mais on va retourner chez Galette Zen quand beaucoup. Même.
Et oui, on va retourner chez Galette Zen, où j'ai demandé à Maogad le secret d'une bonne galette saucisse.
Des bonnes galettes, je pense qu'il faut des bons produits. Nous, on voulait sourcer tous nos produits en France avec des produits qualitatifs. La galette, c'est quand même quelque chose qui est assez simple. Je pense juste que la galette, elle peut être bonne à partir d'une bonne farine. Qu'on en a fait le choix de travailler avec le Moulin de la Fatigue à Vitré, où ils font leur propre farine de sarrasin et de froment, donc elle est vraiment top.
Est-ce qu'on irait en cuisiner une?
Ouais, bien sûr, avec plaisir.
Il y a parfois des galettes saucisses où il y a des oignons ou bien de la moutarde. Toi, c'est quoi ton école?
Moi, je suis la team nature peinture. C'est galettes saucisses, il n'y a rien d'autre.
Là, t'as un très beau four. Là, tu te sens un peu sur le marché de Rennes quand tu sens l'odeur de saucisse comme ça.
Ouais.
C'est quoi comme type de saucisse?
La galette saucisse, c'est une saucisse de porc. Donc la saucisse, ça fait entre 120 et 125 grammes. Elle vient de chez la Maison Mauriac, une ferme familiale dans le 95. Là, du coup, la galette, elle est ronde, donc je la plie en deux. Comme ça, on met la saucisse au milieu. Tac, on vient rouler la galette autour de la saucisse.
Et tu te dis, ça, c'est vraiment le plat de street food par excellence?
Ouais, pour moi, ouais. Ça dégouline pas partout, c'est rapide, c'est efficace, et on peut le manger en marchant, même en courant, je pense qu'on peut la manger.
Elle est à quel prix?
La galette saucisse, elle est à 6 euros, c'est notre produit le moins cher, parce qu'une galette saucisse, ça doit pas être cher, ça doit être accessible à tout le monde.
C'est pour moi, du coup?
C'est pour toi.
Merci.
C'est bon?
Pas super bon.
Et Zazie, vous avez eu la gentillesse de nous apporter ces galettes saucisses.
Oui, je suis passée en chercher avant l'émission parce que vraiment, on peut encourager le travail de Maogad et son équipe. Ils sont jeunes, ils font les choses super bien. Il y a aussi beaucoup d'autres galettes qu'ils proposent délicieuses, comme celle au bœuf fumé, un bœuf confit des heures. Et ils proposent tous les jours une galette végétarienne avec une recette qui change au fil des saisons. Et le premier prix de son menu avec crêpes, c'est 10 euros. Donc c'est vraiment...
Là encore, il y a un vrai effort pour rester tout à fait accessible, ce qui... Encore une fois, n'est pas évident au cœur de Paris. Vous nous rappelez l'adresse de Galette Zen, Zazie?
Alors, l'adresse de Galette Zen, c'est 78 rue Lafayette, dans le 9e arrondissement. Et je vous recommande aussi vivement le livre Galette Saucisse, je t'aime,
oui.
Un passionné, de Benjamin Keltz, aux éditions du Coin de la Rue, coédité avec les éditions Goater.
On va dévorer ce bouquin. Guilherme Tanguy, est-ce que vous avez croqué la galette saucisse de Galette Zen?
Alors, la galette saucisse, c'est très bon.
Vous trouvez ça bien?
Très bon, ouais, c'est très bien. Justement, là, on a l'illustration de la différence entre la crêpe de sarrasin et la galette.
On est sur une galette un peu épaisse.
Parce que là, on est sur une galette. Moi, je ne pourrais pas faire ça du tout avec mes crêpes, puisque je ne peux pas les rouler. Elles sont beaucoup moins souples et beaucoup moins moelleuses. Bah, là, on a les deux côtés de la frontière.
Sachant qu'il y a l'école qui est la vôtre, de la crêpe 100% farine de sarrasin avec de l'eau. Et puis, on peut s'autoriser aussi d'ajouter un œuf ou du lait pour faire une galette plus épaisse ou plus moelleuse.
Il y a autant de recettes de crêpes qu'il y a de grand-mère en Bretagne, je pense. Je crois même que ma grand-mère rajoutait un petit peu de froment dans sa pâte à crêpes de blé noir. De toute façon, elle donnait pas sa recette, donc on saura pas.
Donc c'est pas nécessaire. Et je précise que sur la carte de votre crêperie Tanguy, Guilherme, il y a bien une... galette saucisse avec une saucisse rennaise, c'est ça?
Il y a une crêpe de blé noir avec une saucisse rennaise dedans.
Et un petit peu de thom bio aussi.
Et un petit peu de thom et un œuf et un petit peu de moutarde.
Oh,
Les astres, extrait du nouvel album de Laura Cahen. Froment ou sarrasin, à la poêle ou sur le bilig, moelleuse ou croustillante, on fait des crêpes sans se crêper le chignon sur France Inter.
On va déguster. Sur France Inter.
Nous fêtons la Chandeleur dimanche prochain, le 2 février. Il y a beaucoup, beaucoup de Français qui vont manger des crêpes à cette occasion, puisque un sondage est sorti tout récent. Selon une étude menée par la Fédération des entrepreneurs de la boulangerie et l'Institut IFOP, 8 Français sur 10 mangeront des crêpes. Mais là, on parle plutôt de crêpes de froment qu'on va faire avec vous, cher Guilherme, dans un instant. Mais on fait un petit détour avec Elmira Masson vers une autre galette.
Parce que du côté de chez vous, Guilherme, dans le pays de Pontivy, on fait une galette qui contient, ou une crêpe, qui contient en plus du blé noir, de la pomme de terre. L'occasion était toute trouvée pour que je vous partage ma passion du moment. Vous connaissez, François Régis, ma propension à cuisiner en boucle la même recette jusqu'à écœurement.
Ah non, mais vous êtes même carrément monomaniaque. C'est-à-dire que c'est quand Elvira s'attaque à une recette, c'est jusqu'à épuisement des stocks. Voilà. Mais c'est aussi jusqu'à écœurement et ça peut durer des semaines et des semaines. Voilà. Et là, elle est dans sa période là, galette de pommes de terre.
Voilà, mais j'en suis encore au stade grand amour avec la galette de pommes de terre. Je trouve qu'il y a quelque chose de très satisfaisant dans le fait de râper une pomme de terre, de lui ajouter 2 ou 3 bricoles et de l'extraire du four ou de la poêle peu de temps après sous la forme d'une galette chaude, dorée et croustillante. Alors là, elle n'est pas chaude, forcément, parce que je n'ai pas de four à portée de main.
Par contre, elle est dorée, elle est croustillante.
Oui, et c'est un mode opératoire propre à la cuisine paysanne qu'on retrouve en Ardèche avec la fameuse crique ardéchoise, qui est une galette de pommes de terre, qui n'est pas très éloignée des rösti suisses et des, attention, grumbeux et rekisch le alsacien.
À vos souhaits.
Avec ou sans œufs, avec ou sans oignons, selon les variantes. Quant à la scarpaccia italienne, elle contiendrait à l'origine plus de verre, souvent de la courgette, mais on peut très bien en faire une variante uniquement avec des pommes de terre. Ce que je vous ai apporté, moi, est une sorte d'hybride culinaire. Pas d'œufs, mais en guise de liant, un peu de farine et du halloumi râpé. Ça pourrait être un autre fromage, mais l'idée était qu'il soit assez neutre pour que prédomine le goût de la pomme de terre.
Vous nous rappelez un halloumi, c'est
un fromage chypriote. Pas d'oignon, mais beaucoup de poivre, des herbes aromatiques, enfin, en l'occurrence du thym. Le mélange est étalé finement dans un contenant allant au four, pressé avec une spatule et cuit sans avoir besoin d'être retourné, d'où l'intérêt de ne pas le cuire à la poêle mais au four. Facile, inratable, c'est le genre de recette dont on peut plus se passer, enfin en tout cas vous l'avez compris, moi je m'en passe plus. Une fois qu'on l'a essayé, j'ai ajouté un petit peu de labné sur ce que je vous ai apporté et des œufs de truite, ce qui rapproche cette galette de pommes de terre un petit peu du répertoire de l'Europe de l'Est. Parce que dans la famille des galettes de pommes de terre, je demande aussi les latkes de la cuisine juive ashkénaze, qui contiennent de l'œuf et de la farine de matza. On en trouve une version inoubliable. Alors, il faut traverser l'Atlantique pour ça, même s'il y en a plein dans plein de quartiers d'Europe. Mais pour moi, une version très marquante, c'est à New York, chez Russ and Daughters, qui est un célèbre deli restaurant qui célèbre la beauté de la cuisine ashkénaze, dont la recette figure dans le formidable livre d'Annabelle Chakmes, Cuisine juive à New York.
Absolument.
Les hash browns des diners américains en sont d'ailleurs une émanation. À New York toujours, il y a dans le quartier de Lower East Side un musée consacré à l'histoire de l'immigration, le Tenement Museum. Dans ce musée, il y a une librairie avec un fonds d'ouvrages consacré aux cuisines des diasporas qui ont fait New York, aux cuisines de l'immigration. Je suis tombée sur un livre étonnant qui s'appelle The Ellis Island Immigrant Cookbook, un livre qui ressemble à un gros polycopier relié par une spirale en plastique bleu, que du texte, presque pas d'image, qui a été réédité et modifié une trentaine de fois depuis sa première publication en 1991. Il est composé par les recettes transmises à son auteur, Tom Bernardin, par les descendants d'immigrés arrivés en bateau à Ellis Island. La première génération, les Italiens, les Polonais, les Irlandais, les Suédois, et puis tous les autres, avec des recettes de famille jamaïcaines, chinoises, portoricaines, colombiennes. Des recettes frugales, simples, où la pomme de terre joue évidemment un rôle majeur sous toutes ses formes, notamment la recette des latkes. Un livre magnifique, passionnant historiquement, très émouvant, comme un hommage étoffé au fil du temps à celles et ceux qui, rêvant d'un avenir possible, ont tout quitté, ne gardant que leur langue et leur cuisine. Ceux-là même qui sont tellement dans l'actualité cette semaine en particulier, qu'ils soient aux États-Unis ou ici. Alors continuons, nous, ici, de célébrer cette cuisine de l'immigration sous toutes ses formes.
La galette de pommes de terre que vous nous servez est en plus délicieuse. Et ça, pour le coup, c'est une adaptation, une création de votre propre signature.
Oui, et voilà, qui est un peu le bas, qui est souvent la cuisine, un peu de syncrétisme qui combine un peu d'Ardèche, un peu de la Caisse, plein de régions différentes. Et c'est très simple à faire.
Une variété de pommes de terre ?
J'ai pris de la Charlotte, mais je pense que n'importe quelle pomme de terre un peu ferme fait très bien l'affaire.
Vous aimez, vous acceptez ou pas la galette de pommes de terre ?
Complètement, j'accepte complètement.
Il y avait effectivement en Bretagne une vraie tradition de galette à base de ce fameux tubercule.
Oui, on est sur un mélange sarrasin et pomme de terre.
Sarrasin et pomme de terre ?
Oui.
Ah oui, ça faisait quoi, une espèce de pancake ?
Ça fait, ouais, format blinis pancake. C'est meilleur réchauffé le lendemain, avec du beurre évidemment. Et pour le coup, chez moi, c'est ce qu'on appelle une galette, quoi.
Ça vous dit qu'on passe aux crêpes ?
On passe aux crêpes.
Ah, vous acceptez qu'on passe aux crêpes, donc ça veut dire que, que crêpes, c'est sucré ?
Il m'a piégé.
Allez, Obilig, Guilherme, la crêpe française qu'on apprend en général en CAP, elle est assez neutre, elle est non sucrée. Vous, par contre, vous faites la crêpe de froment à la bretonne.
Moi, je rajoute un petit peu de sucre. Il n'y aura pas non plus ni rhum, ni voilà. Mais œufs, sucre, farine et lait.
Alors, vous allez nous préparer en direct une véritable pâte à crêpes sucrées. C'est parti, racontez-nous ce que vous faites.
Alors, je vais commencer par mélanger 3 œufs avec mon sucre. Bon, bah, 3 œufs, on a de la chance. C'est des doubles jaunes. Mais je vais quand même en mettre 3. Encore un double jaune. Si les 3 sont double jaune.
Vous jouez au loto.
Ah, non, un simple. Avec 150 g de sucre, vous pouvez faire avec un sucre cristal blanc, moi je préfère quand même un sucre de canne le moins raffiné possible. Et on commence par mélanger le sucre et les œufs. Donc ça c'est les proportions que je prends pour 500 g de farine. Mais là je vais d'abord ajouter le lait. Là, je commence par un demi-litre et ensuite, je vais la redétendre parce que c'est justement en travaillant un mélange un peu plus épais qu'on va casser les éventuels grumeaux. Pour ça, il faut mettre la farine au fur et à mesure et continuer à mélanger au fur et à mesure. Donc là, c'est pour 500 g de farine, ce qui représente entre 10 et 15 crêpes. Sur le bilic, parce que effectivement, à la poêle, on va avoir tendance à en mettre un petit peu plus. Il n'est pas interdit de rajouter du beurre non plus. Moi, je vais plutôt le mettre sur le bilic à la cuisson. On peut aussi intégrer du beurre fondu dans sa pâte. Et donc là, maintenant, je vais rallonger avec le reste de ma bouteille de 1 litre de lait.
Guilherme ?
Oui.
Vous avez donc un truc pour identifier pile poil la bonne texture, la bonne viscosité de la pâte à crêpes. C'est que vous prenez une louche et vous versez cette pâte à crêpes dans le saladier et ça doit produire en fait une double coulure, un double filet de pâte en fait.
Exactement. À la tête de la louche et au cul de la louche. Voilà.
Ah, on le voit bien là. Quand vous versez la pâte, bah, y a en fait effectivement 2 filets de pâte qui coulent. Ça veut dire que c'est réussi, et est-ce que c'est prêt à être directement cuit, ou la pâte à crêpes de froment demande aussi du repos ?
Non, vous pouvez le faire tout de suite, vous allez me dire si elles sont réussies ou pas. On va essayer.
Toujours même température que pour les galettes de sarrasin ?
Un peu moins forte. J'ai baissé, on est à 210.
Parce qu'on veut pas qu'elle croustille ?
Si, en breton on dit crasse sur les bords et guélique au milieu.
Guélique, c'est moelleuse ?
Ouais.
Moi je la veux bien guélique, s'il vous plaît.
Ah, du beurre à la surface.
Eh oui.
Là, vous lustrez la crêpe. Céline, vous avez une commande à faire ?
Sucre citron pour moi.
Moi, je prends pomme caramel au beurre salé.
Moi, j'aime bien Nutella chantilly, j'ai un peu honte, mais c'est pas possible.
Oh non, vous sortez de ce studio, Zazie.
Je suis virée.
Sachant que, sacrée performance quand même, chez Tanguy Crêpe, notre fameuse adresse de crêperie, cher Guilherme, la beurre-sucre. Avec sucre bio, blond, rapadura biologique, etc. C'est 4 euros. Donc ça reste quand même un budget assez honnête à Paris. Il paraît que pour tester une bonne crêperie, faut goûter les recettes les plus simples. Vous êtes d'accord ou pas, Guilherme ?
Oui, complètement. On commence par une simple au beurre en sarrasin, une complète et une beurre sucre.
Et celle que vous nous faites, c'est...
Là, j'ai fait beurre sucre.
Bon alors, mes amis IES, cette crêpe beurre sucre, vous en pensez quoi ?
On n'a pas précisé beurre salé ou beurre doux, parce que c'est évident, ça coule de source.
Je connais pas d'autres formes de beurre.
Bien sûr.
Beurre salé donc ?
Beurre salé, oui.
Et là, ça marche demi-sel, très bien avec demi-sel. Le sucre...
Demi-sel.
Avec le sucre rapadura qui ne fond pas, en fait, qui vient croustiller en bouche.
Vas-y, convaincu ?
Bah, c'est délicieux, et le beurre est très bon aussi, je trouve qu'il y a un bon goût quand on le sent bien. J'ai apprécié.
C'est le but, si on sent pas le beurre, c'est qu'on s'est raté.
Oui, le goût est net et franc, le côté sucré et salé, la chaleur, le moelleux, le croustillant sur les bords et tout, c'est un doudou quoi.
Et toujours selon ce même sondage de l'Institut IFOF que je citais tout à l'heure, écoutez bien, sur les crêpes de froment, 54% des Français se contentent, comme ici, de leurs crêpes saupoudrées de sucre semoule et d'un peu de beurre. Donc c'est quand même une petite majorité, 54%. Et 49% font, comme Zazie, de la pâte à tartiner.
On va déguster. Sur France Inter.
Céline Maguet, on est déjà servi. Vous remplissez nos verres à l'occasion de cette émission spéciale galettes et crêpes. On devine un peu l'identité du liquide, de la boisson, mais il y a peut-être un piège.
En effet, François-Régis, il y a un piège, parce que ce que vous avez devant vous, c'est un joli breuvage rouge, étonnant pour un cidre. Il y a des bulles un peu énergiques, il est en forme. Est-ce que vous arrivez à deviner ce que c'est ?
On va donner la parole à Guilherme. Vous aimez déjà ou pas ?
J'aime beaucoup. Il y a de la pomme, mais il n'y a pas que de la pomme.
Ah, il est fort le garçon.
Et du raisin ?
Il y a de la pomme, il y a du raisin.
Bravo Elvira.
Bravo. Il y a de la pomme bretonne, bien sûr. Et il y a aussi du raisin ligérien. Car s'il y a un point commun entre la Bretagne et la vallée de la Loire, c'est bien la fermentation des fruits. Les fruits à pépins, pommes et poires du côté de la Bretagne, première région productrice de cidre en France. Et dans la vallée de la Loire, les raisins de cuve. Chenin, Sauvignon, Melon de Bourgogne, Pinot de Nice, Gros Lot, Cabernet Franc. Et il en manque un. C'est celui que vous avez dans votre verre. Le Gamay. Donc ce pétillant, en fait, c'est une cofermentation d'un Gamay d'Ancenis, en Loire-Atlantique, et d'une pomme acidulée, la Guivic, une variété très très locale du Pays de Vannes, dans le...
Morbihan.
C'est bien, on a révisé notre géographie. Je parle ici de cofermentation, car la nature est bien faite, le Gamay est le dernier raisin vendangé, et la pomme Guivic, c'est la première des pommes acides à être récoltée. Ils vont donc se passer le relais en termes de fermentation. Pour faire cette cuvée, Alexis Frankel et Maxime Petit, du domaine des Gats, vendangent leur gamay. Ils font macérer les baies quelques jours, puis ils les pressent et amènent le jus en cours de fermentation à la cidrerie du Golfe, dans le Morbihan. Ce moût de raisin plein de vie va servir de pied de cuve et entraîner le jus de pomme fraîchement pressé dans sa fermentation. Et le cidre et le vin vont alors fermenter ensemble. C'est une sorte de symbiose qui émerveille encore Marc Abel de la cidrerie du Golfe, pourtant bien aguerri après 12 ans de cidriculture. Alors cette cuvée qui est faite en collaboration, vous pouvez la trouver aussi bien au domaine des Gats, sous le nom très mignon de Trognon, qu'à la cidrerie du Golfe où elle est appelée Mon Cœur Balance. Elle est vendue entre 12 et 15 euros selon les caves. Et parce qu'on ne se refait pas, les deux cuvées sont en fait différentes, elles reflètent les amours des deux domaines. Trognon est plus vineux, c'est un cidre de vigneron, alors que Mon Cœur Balance, la cuvée des cidriers, tire plus vers le cidre.
Mais il y a un bon équilibre, je trouve, entre les deux fruits, sans que l'un prenne le dessus sur l'autre. C'est franchement une très très belle boisson, tout en intensité. Est-ce qu'on peut appeler ça un cidre, Céline ?
Alors, vous l'avez dit, en fait, c'est bien balancé. En même temps, on voit bien la référence au cidre. Mais légalement, on ne peut pas appeler ça un cidre. Car la dénomination cidre est réservée à une boisson qui ne contient que de la pomme ou que de la pomme et de la poire. Elle est plutôt appelée pétillant de fruits ou chimère. Dominique Hutin, notre docteur est cidre, mais aussi Justine Knapp, en ont parlé de ces cuvées hybrides associant des pommes à d'autres fruits.
Ah, et ces chimères, on en trouve, j'imagine, dans d'autres cidreries ?
Alors l'idée a fait des émules, mais ça a pris du temps. Pour deux raisons. Géographique d'abord, parce que les vergers de pommes et de poires sont rarement proches des vignobles, mais aussi parce qu'en France, on a des traditions viticoles et cidrières qui ont parfois la peau dure. Je vais l'ouvrir. Celui qui parle le mieux du poids de ces traditions, c'est Commis Ambert, vigneron à Saumur, cidrier et professeur à l'école supérieure des agricultures d'Angers. Quand en 2017, il commercialise sa première cuvée hybride, Tour de Fruits, un assemblage de poirées et de chenins, il est un peu moqué par ses voisins. À Saumur, on ne rigole pas avec les raisins et surtout on ne les assemble pas aux pommes. En gros, on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Alors lui, il persiste et signe. La même année, Commis Ambert a en tête de faire un crément hybride. Il retourne dans l'Orne en Normandie avec des raisins blancs et il y presse du chenin avec des pommes acides d'un de ses amis qui élève des vaches dans des champs de pommiers et de poiriers. Heureusement qu'il a continué, car ces pétillants naturels de fruits, comme il les appelle, sont des exercices de style. Secs, vifs, tendus, avec de la longueur, ils semblent vraiment appartenir au monde du vin. Là, vous avez sa dernière cuvée 2022 dans votre verre. C'est une cofermentation de pommes douces amères, de chardonnay et de sauvignon.
C'est délicieux.
Ouais. Profitez-en, car Côme a décidé de raccrocher les crampons. Cette cuvée sera son dernier tour de fruits. Mais je ne vais pas laisser les auditeurs et auditrices sur le banc de touche. Vous aussi, vous pouvez découvrir les cidres et pétillants de fruits de Comisambert et de nombreux autres cidriers et cidrières de talent le week-end prochain au salon Les Brigades du Cidre, pile poil pour la Chandeleur, le dimanche 2 février à la chapelle de la Sénatorerie à Saumur, dans le Maine-et-Loire.
Merci beaucoup Céline Maguet, on va trinquer ensemble. Toutes les informations liées à votre chronique sont à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster. Et notamment ces deux boissons hybrides, ces chimères, tout en charme, en intensité, avec beaucoup de délicatesse aussi, et du fruit à 300%. Étonnant. C'est vraiment délicieux. Tanguy.
Oui.
Non, pardon. Guilherme.
Oui, François.
Il y a une très jolie sélection, je l'ai constaté il y a quelques jours, une sélection de cidre chez Tanguy, votre crêperie rue de l'Échiquier, Paris 10e, parce que on est quand même dans une crêperie assez moderne. Il y a des codes très modernes, mais vous êtes vraiment dans le savoir-faire traditionnel en ce qui concerne, évidemment, les galettes, on l'a constaté, les crêpes de sarrasin et les crêpes de froment. Et évidemment, vous validez le fait que le cidre est bien la boisson officielle des crêperies.
Oui, le cidre est la boisson officielle des crêperies. En revanche, effectivement, là où j'ai apporté un peu de modernité, c'est qu'on ne le boit pas dans des bolets chez nous.
Et oui, ça n'a pas de sens.
Je trouve que c'est quand même beaucoup plus agréable à la déguste. On profite un peu plus de la couleur de ce qu'on boit.
Dans un verre à pied.
Dans un verre à pied.
Donc voilà. Vous considérez que le cidre est un vin de pomme, en fait.
Exactement. Je connaissais le travail de Comisambert. Je connais la cidrerie du Golfe aussi, et nous aussi on a quelques chimères aussi à la carte, avec un assemblage Guivic Gamay aussi, Pinot Noir, et Pomme Poire aussi.
Allez, s'il fallait juste citer votre coup de cœur en termes de cidre, un cidre assez accessible et délicieux pour la Chandeleur dans une semaine.
Moi j'aime beaucoup l'extra brut de Quatalbret,
que
je trouve extrêmement élégant, droit, on est sur quelque chose où effectivement...
Assez vineux et tannique.
Ouais, assez vineux. La pomme elle est très discrète et du coup il y a un côté très presque crémant. Quoi.
On est dans quel coin de Bretagne ?
On est dans le 35, on est en banlieue de Rennes, Quatalbret.
Merci beaucoup, cher Guilherme.
Plaisir, merci.
C'était un vrai plaisir de vous accueillir, merci pour votre générosité, merci d'avoir fait chauffer le Bilig, ou la Bilig. Attention, je vais me faire gronder moi aussi par beaucoup de Bretons qui nous écoutent, et on est très écoutés en Bretagne. Tanguy Crêpe, vous nous rappelez l'adresse de votre crêperie à Paris, et c'est un vrai coup de cœur de toute l'équipe.
Merci, 15 rue de l'Échiquier, dans le 10e, métro Strasbourg-Saint-Denis.
Merci beaucoup Elvira.
Merci à tous et toutes, et bon dimanche.
Merci Zadie.
Merci, j'espère qu'on va continuer à manger des crêpes là, une fois que l'émission est terminée.
Allez au boulot.
Merci Céline.
Merci, bonne Chandeleur.
La semaine prochaine, pour la nouvelle masterclass dont on va déguster, c'est Emmanuel Renaud, le chef 3 étoiles de Flocon de Sel à Megève, qui passe à la casserole. Elvira Masson et Jérôme Gagnès seront dans les fauteuils des chroniqueurs. Hein, Elvira ?
Ah oui, avec joie.
On va se régaler avec ce chef brillantissime à dimanche prochain. Si vous avez encore faim... Juste après les infos, vous avez rendez-vous avec Questions Politiques. Bonjour Karine Bécard.
Bonjour François-Régis Gaudry, vous avez de la chance de manger des crêpes. C'est l'ancien patron de l'agence Frontex, notre invité ce dimanche dans Questions Politiques. Aujourd'hui, il est député européen du Rassemblement National. Il est très proche du chef du parti, Jordan Bardella. Et on va lui demander s'il voit Donald Trump comme un modèle à suivre. Je vous dis à tout de suite.
Bonne émission Karine, merci. On sera à l'écoute.